Édouard Choret, Les Grands Initiés, Livre premier, Rama. Chapitre 5, La religion védique. Par son génie organisateur, le grand initiateur des Aryas avait créé au centre de l'Asie, dans l'Iran, un peuple, une société, un tourbillon de vie, qui devait rayonner en tous sens. Les colonies des Aryas primitifs se répandirent en Asie, en Europe, emportant avec eux leurs mœurs, leurs cultes et leurs dieux. De toutes ces colonies, la branche des Aryas de l'Inde se rapproche le plus des Aryas primitifs. Les livres sacrés des hindous, les Védas, ont pour nous une triple valeur. D'abord, ils nous conduisent au foyer de l'antique et pure religion aryenne, dont les hymnes védiques sont les rayons brillants. Ils nous donnent ensuite la clé de l'Inde. Enfin, ils nous montrent une première cristallisation des idées mères de la doctrine ésotérique et de toutes les religions aryennes. Bornons-nous à un bref aperçu et de l'enveloppe et du noyau de la religion védique. Rien de plus simple et de plus grand que cette religion, où un profond naturalisme se mêle à un spiritualisme transcendant. Avant le lever du jour, un homme, un chef de famille, est debout devant un autel de terre, où brûle le feu allumé avec deux morceaux de bois. Dans sa fonction, ce chef est à la fois père, prêtre et roi du sacrifice. Pendant que l'aurore se démine, dit un poète védique, comme une femme qui sort du bain et qui a tissé la plus belle des toiles, le chef prononce une prière, une invocation à Usha, l'aurore, à Savitri, aux Asuras, aux esprits de vie. La mère et les fils verse la liqueur fermentée de l'asclépia, le soma, dans Agni, le feu. Et la flamme, qui monte, emporte aux dieux invisibles la prière purifiée qui sort des lèvres du patriarche et du cœur de la famille. L'état d'âme du poète védique est également éloigné du sensualisme hellénique. Je parle des cultes populaires de la Grèce, nom de la doctrine des initiés grecs, qui se représentent les dieux cosmiques avec de beaux corps humains, et du monothéisme judaïque qui adore l'éternel sans forme partout présent. Pour le poète védique, la nature ressemble à un voile transparent derrière lequel se meuvent des forces impondérables et divines. Ce sont ces forces qu'il invoque, qu'il adore, qu'il personnifie, mais sans être la dupe de ses métaphores. Pour lui, Savitri est moins le soleil que Vivasvat, la puissance créatrice de vie qui l'anime et qui évertue le système solaire. Indra, le guerrier divin qui, sur son char doré, parcourt le ciel, lance la foudre et fait crever les nuages, personnifie la puissance de ce même soleil dans la vie atmosphérique, dans le grand transparent des airs. Lorsqu'ils invoquent Varuna, l'Uranus des Grecs, le dieu du ciel immense, lumineux, qui embrasse toutes choses, les poètes védiques montent plus haut encore. Si Indra représente la vie active et militante du ciel, Varuna en représente l'immuable majesté. Rien n'égale la magnificence des descriptions que font de lui les hymnes. Le soleil est son œil, le ciel son vêtement, l'ouragan son souffle. C'est lui qui a établi sur des fondements inébranlables le ciel et la terre et qui les maintient séparés. Il a tout fait et conserve tout. Rien ne saurait porter atteinte aux œuvres de Varuna. Nul ne le pénètre, mais lui, il sait tout et voit tout de ce qui est et ce qui sera. Des sommets du ciel où il réside en un palais aux mille portes, il distingue la trace des oiseaux dans l'air et celle des navires sur les flots. C'est de là, du haut de son trône d'or au fondement des reins, qu'il contemple et juge les agissements des hommes. Il est le mainteneur, l'ordre dans l'univers et dans la société. Il punit le coupable. Il est miséricordieux à l'homme qui se repent. Aussi, c'est vers lui que s'élève le cri d'angoisse du remords. C'est devant sa face que le pécheur vient se décharger du poids de sa faute. Ailleurs, la religion védique est ritualiste, parfois hautement spéculative. Avec Varuna, elle descend dans les profondeurs de la conscience et réalise la notion de la sainteté. Ajoutons qu'elle s'élève à la pure notion d'un Dieu unique qui pénètre et domine le grand tout. Cependant, les images grandioses que les hymnes roulent à large flot comme des fleuves généreux ne nous offrent que l'enveloppe des Védas. Avec la notion d'Agnier du feu divin, nous touchons au noyau de la doctrine, à son fond ésotérique et transcendant. En effet, Agnier est l'agent cosmique, le principe universel par excellence. Il n'est pas seulement le feu terrestre de l'éclair et du soleil. Sa véritable patrie est le ciel, invisible, mystique, séjour de l'éternelle lumière et des premiers principes de toutes choses. Ses naissances sont infinies, soit qu'il jaillisse du morceau de bois dans lequel il dort, comme l'embryon dans la matrice, soit que, fils des ondes, il s'élance avec le bruit du tonnerre des rivières célestes où les Agvins, les cavaliers célestes, l'ont engendré avec des aranis d'or. Il est l'aîné des dieux, pontife au ciel comme sur la terre, et il officia dans la demeure de Vivasvat, le ciel ou le soleil, bien avant que Matarivsa, l'éclair, l'eût apporté aux mortels, et que Atarvan et les Angiras, les anciens sacrificateurs, l'eussent institué ici-bas comme le protecteur, l'hôte et l'ami des hommes. Maître et générateur du sacrifice, Agni devient le porteur de toutes les spéculations mystiques dont le sacrifice est l'objet. Il engendre les dieux, il organise le monde, il produit et conserve la vie universelle. En un mot, il est puissance cosmogonique. Soma est le pendant d'Agni. En réalité, c'est le breuvage d'une plante fermentée versée en libation au dieu dans le sacrifice. Mais comme Agni, il a une existence mystique. Sa résidence suprême est dans les profondeurs du troisième ciel, où Surya, la fille du soleil, l'a filtrée, où l'a trouvé Pushan, le dieu nourricier. C'est de là que le faucon, symbole de l'éclair, ou Agni lui-même, ont été le ravir à l'archer céleste, au Gandharva, son gardien, et l'ont apporté aux hommes. Les dieux l'ont bu et sont devenus immortels. Les hommes le deviendront à leur tour quand ils le boiront chez Yama, dans le séjour des heureux. En attendant, il leur donne ici-bas la vigueur et la plénitude des jours. Il est l'ambroisie et l'eau de jouvence. Il nourrit, pénètre les plantes, vivifie la semence des animaux, inspire le poète et donne l'élan de la prière. Âme du ciel et de la terre, d'Indra et de Vishnu, il forme avec Agni un couple inséparable. Ce couple a allumé le soleil et les étoiles. La notion d'Agni et de Soma contient les deux principes essentiels de l'univers, selon la doctrine ésotérique et selon toute philosophie vivante. Agni est l'éternel masculin, l'intellect créateur, l'esprit pur. Soma, l'éternel féminin, l'âme du monde ou substance éthérée, matrice de tous les mondes visibles et invisibles aux yeux de chair, la nature, enfin, ou la matière subtile en ses infinies transformations. Or, l'union parfaite de ces deux êtres constitue l'être suprême, l'essence de Dieu. De ces deux idées capitales en jaillit une troisième, non moins féconde. Les Védas font de l'acte cosmogonique un sacrifice perpétuel. Pour produire tout ce qui existe, l'être suprême s'immole lui-même. Il se divise pour sortir de son unité. Ce sacrifice est donc considéré comme le point vital de toutes les fonctions de la nature. Cette idée surprenante au premier abord, très profonde quand on y réfléchit, contient en germe toute la doctrine théosophique de l'évolution de Dieu dans le monde, la synthèse ésotérique du polythéisme et du monothéisme. Elle enfantera la doctrine dionysiaque de la chute et de la rédemption des aînes qui s'épanouira dans Hermès et dans Orphée. De là, jaillira la doctrine du Verbe divin, proclamé par Krishna, accompli par Jésus-Christ. Le sacrifice du feu, avec ses cérémonies et ses prières, centre immuable du culte védique, devient ainsi l'image de ce grand acte cosmogonique. Les Védas attachent une importance capitale à la prière, à la formule d'invocation qui accompagne le sacrifice. C'est pour cela qu'ils font de la prière une déesse, Brahmanaspati. La foi au pouvoir évocateur et créateur de la parole humaine, accompagnée du mouvement puissant de l'âme ou d'une intense projection de la volonté, est la source de tous les cultes et la raison de la doctrine égyptienne et chaldéenne de la magie. Pour le prêtre védique et brahmanique, les Asuras, les seigneurs invisibles, et les Pitris, ou âmes des ancêtres, sont censés s'asseoir sur le gazon pendant le sacrifice, attirés par le feu, les chants et la prière. La science qui se rapporte à ce côté du culte est celle de la hiérarchie des esprits de tout ordre. Quant à l'immortalité de l'âme, les Védas l'affirment aussi hautement, aussi clairement que possible. Il est une partie immortelle de l'homme. C'est elle, ô Agni, qu'il faut échauffer de tes rayons, enflammer de tes feux, ô Jatayeda, dans le corps glorieux formé par toi, transporte-la au monde des pieux. Les poètes védiques n'indiquent pas seulement la destinée de l'âme, ils s'inquiètent aussi de son origine. D'où est née l'âme? Il en est qui viennent vers nous et s'en retournent, qui s'en retournent et reviennent. Voilà déjà en deux mots la doctrine de la réincarnation qui jouera un rôle capital dans le brahmanisme et le bouddhisme, chez les Égyptiens et les orphiques, dans la philosophie de Pythagore et de Platon, le mystère des mystères, l'arcane des arcanes. Comment ne pas reconnaître après cela dans les Védas les grandes lignes d'un système religieux organique, d'une conception philosophique de l'univers? Il n'y a pas là seulement l'intuition profonde des vérités intellectuelles antérieures et supérieures à l'observation. Il y a de plus unité et largeur de vue dans la compréhension de la nature, dans la coordination de ces phénomènes. Comme un beau cristal de roche, la conscience du poète védique reflète le soleil de l'éternelle vérité. Et dans ce prisme brillant se jouent déjà tous les rayons de la théosophie universelle. Les principes de la doctrine permanente sont même plus visibles ici que dans les autres livres sacrés de l'Inde et dans les autres religions sémitiques ou ariennes, à cause de la singulière franchise des poètes védiques et de la transparence de cette religion primitive, si haute et si pure. À cette époque, la distinction entre les mystères et le culte populaire n'existait pas. Mais, en lisant attentivement les Védas, derrière le père de famille ou le poète officiant des hymnes, on aperçoit déjà un autre personnage plus important, le Rishi, le sage, l'initié dont il a reçu la vérité. On voit aussi que cette vérité s'est transmise par une tradition ininterrompue qui remonte aux origines de la race aryenne. Voilà donc le peuple aryen lancé dans sa carrière conquérante et civilisatrice le long de l'Indus et du Gange. Le génie invisible de Rama, l'intelligence des choses divines, Deva Nahusha, règne sur elle. Agni, le feu sacré, circule dans ses veines. Une aurore rosée enveloppe cet âge de jeunesse, de force, de virilité. La famille est constituée, la femme respectée. Prêtresse au foyer, parfois, elle compose, elle chante elle-même les hymnes. Que le mari de cette épouse vive 100 automnes, dit un poète. On aime la vie, mais on croit aussi à son au-delà. Le roi habite un château sur la colline qui domine le village. À la guerre, il est monté sur un char brillant, vêtu d'armes luisantes, couronné d'une tiare. Il resplendit comme le dieu Indra. Plus tard, quand les Brahmanes auront établi leur autorité, tu verras s'élever près du palais splendide du Maharaja ou du grand roi la pagode de pierre d'où sortiront les arts, la poésie et le drame des dieux, mimés et chantés par les danseuses sacrées. Pour le moment, les castes existent, mais sans rigueur, sans barrière absolue. Le guerrier est prêtre et le prêtre guerrier, plus souvent serviteur officiant du chef ou du roi. Mais voici un personnage pauvre d'aspect et gros d'avenir. Cheveux et barbe incultes, demi-nus, couverts de haillons rouges. Ce Mouni, ce solitaire, habite près des lacs sacrés dans les solitudes sauvages où il se livre à la méditation et à la vie ascétique. De temps en temps, il vient admonester le chef ou le roi. Souvent, on le repousse, on lui désobéit, mais on le respecte et on le craint. Déjà, il exerce un pouvoir redoutable. Entre ce roi, sur son char doré, entouré de ses guerriers, et ce Mouni presque nu, n'ayant d'autres armes que sa pensée, sa parole et son regard, il y aura une lutte. Et le vainqueur formidable, ce ne sera pas le roi, ce sera le solitaire, le mendiant décharné, parce qu'il aura la science et la volonté. L'histoire de cette lutte est celle même du brahmanisme, comme elle sera plus tard celle du bouddhisme. Et en elle se résume presque toute l'histoire de l'Inde.